France Inter, franceinter.com.
Éric Tabarly portait disparu au large des côtes galloises. Il est tombé à l'eau cette nuit vers 1h du matin. Depuis, plus aucune nouvelle. Les spécialistes de la navigation maritime sont très pessimistes sur son sort.
14 heures dans l'eau, ça laisse très peu d'espoir.
We don't unfortunately hold very much hope.
Ans d'histoire. La mer était forte et la nuit noire lorsque le 13 juin 1998, un peu après minuit, Éric Tabarly tombait de son Pendwick quelque part au large de l'Irlande. Il se rendait en Écosse pour participer à une parade de bateaux qui, comme celui sur lequel il se trouvait, avait été dessiné par William Fyfe, un des plus grands architectes navals du 19e siècle. Tabarly, qui avait inventé des voiliers révolutionnaires, allait donc mourir cette nuit-là en tombant d'un bateau centenaire, le premier des six Pendwick, à bord desquels il avait remporté les plus grandes courses au large. Mais ce premier Pendwick, le seul qu'il n'ait pas construit, il y tenait plus qu'aux autres. C'est avec lui que, 60 ans plus tôt, il avait découvert la passion qui avait fait de lui le plus populaire et le plus grand navigateur français de son temps. Éric Tabarly.
Pendwick en breton, c'est la mésange à tête noire, la mésange charbonnière. Et littéralement, ça veut dire petite tête noire. Pen, c'est tête, du, c'est noir, et X, c'est le diminutif pour petit. Mon père a acheté Pendwick en 1937, donc à ce moment-là, j'avais 6 ans. Bon, à 6 ans, on commence déjà à voir un petit peu ce qui se passe. Tous mes jouets, c'était des bateaux. Et moi, j'ai toujours aimé beaucoup la marine. Enfin, quand j'étais petit, à 5 ans, on me disait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je disais « amiral ».
Yann Kefelec, bonjour.
Bonjour.
C'était Éric Tabarly que j'avais eu le plaisir de rencontrer pour l'Histoire en direct de France Culture en 1995, 3 ans donc avant sa disparition. Tabarly, auquel vous venez de consacrer un livre émouvant publié chez Fayard. Plus il est loin, plus il est là, plus il nous manque, dites-vous. Peut-être vous manque-t-il plus qu'à d'autres encore, Yann Kefelec, parce que vous l'avez bien connu, vous avez navigué avec lui.
J'ai été prêté à Éric Tabarly au début des années 60. Comme équipier, je faisais partie d'une école de mer, comme ça où on apprenait à la fois la voile et le sens marin. Et la récompense, c'était effectivement de pouvoir éventuellement naviguer avec Tabarly, qui lui s'entraînait à la Trinité pour sa course, la première transat anglaise de 1964, sa première transat anglaise de 64. Donc j'ai fait une sortie en mer d'une journée avec lui et j'étais à la barre lorsque pour le déjeuner, il m'a préparé un plat de nouilles. Il est célèbre pour sa manière, sa technique de préparation des nouilles. Et c'est vrai que c'était particulièrement bouleversant de se voir préparer un repas par Éric Tabarly en personne. Pardon.
Oui. Non. Alors vous avez aussi navigué sur ce bateau sur lequel il est mort il y a 10 ans, qui est un bateau mythique, le seul qui n'est pas construit, Pendwick Ier. C'est là qu'il fait ses débuts. Et puis on l'a entendu expliquer d'abord que signifiait Pendwick et qu'il voulait être amiral, hein, alors qu'il était un élève plutôt médiocre dans sa jeunesse.
On va dire moyen, il n'était pas un très bon élève. Moi, j'ai pas du tout voulu insister sur les déboires scolaires de Tabarly, d'abord parce que moi-même j'ai été un assez mauvais élève, et ensuite parce que finalement il est devenu un tel maestro, un tel maître, que l'ombre de l'élève s'estompe totalement derrière le géant comme ça qu'il est devenu.
Alors cela dit, il est entré dans la marine nationale par le biais de l'aéronaval, hein, il était pilote, y compris en Indochine, et puis il est entré à l'école navale en 1958, la marine de guerre avait beaucoup d'importance pour lui. Et elle l'a suivi, elle l'a soutenu d'ailleurs jusqu'au bout.
Oui, c'est la marine nationale qui a construit son fameux Pendwick 6 notamment. Il a toujours débrouillé les problèmes techniques que la construction d'un bateau pouvait poser à Éric Tabarly. Et c'est vrai qu'en plus, la marine de guerre, je comprends très très bien, la marine de guerre, c'est la marine aussi, c'est à la fois le sens naval, c'est l'esprit d'équipe, c'est la fraternité, c'est le goût du bout du monde. Il n'avait aucun mépris pour ces grands bateaux gris, qui sont des bateaux magnifiques, il faut bien le dire, qui vont extrêmement loin. Et en plus, il a été soutenu par cette espèce de famille incroyable des marins de la marine nationale, donc c'est tout à fait respectable.
Et qui le laissait donc quitter l'école navale, ou en tout cas la marine, avec le deuxième Benduik. Celui-là, il l'a vraiment construit. C'était pour participer à la Transat anglaise de 1964. Au départ de Plymouth, le 23 mai, personne en France ne connaissait encore le nom de Tabarly. Il était encore totalement inconnu. Et 28 jours plus tard, à Newport, de l'autre côté de l'Atlantique, il était devenu célèbre.
Tabarly, Eric Tabarly, un prénom, un nom désormais célèbre. Eric Tabarly, le capitaine courageux français, vainqueur à présent certain de la course croisière la plus longue et la plus dure du monde, est en vue de Newport aux États-Unis. Exploit qui stupéfie les yachtmen de Newport qui disent « The Frenchie is the best », le petit français est le plus fort.
Alors il y a d'abord eu les gardiens du bateau-feu de Nantucket qui sont venus près de moi et ils m'ont dit que j'étais le premier, mais je me suis dit « ils ont peut-être pas bien compris ma question et... ». Donc j'y croyais pas trop quand même. Mais c'est vraiment que quand les premières vedettes là, sont arrivées à ma rencontre, que là, ils m'ont dit vraiment que j'étais premier.
Vos sentiments à ce moment-là
Ah ben, j'étais content.
Nous avons été les premiers à monter à bord du bateau et les premiers à parler avec Tabarly.
Moi, je continue, je viens de vous apprendre une bonne nouvelle, non ?
Oui, excellente, oui.
Dites-nous-le.
Je suis chevalier de la Légion d'honneur.
Et ce matin, quand on vous a annoncé que vous avez gagné, vous avez été surpris, vraiment ?
J'ai été un peu surpris, oui.
Et c'était Eric Tabarly, le jour où il gagnait la Transat de 64, il était devenu célèbre du jour au lendemain. Hein. L'idole des houles l'a appelé plus tard Kersauzon.
Magnifique.
Comment expliquer que du jour au lendemain, comme ça, cet homme dont personne n'avait entendu parler devienne célèbre dans la France entière?
Mais parce que la France entière avait une prémonition de toute manière à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, Tabarly n'était pas célèbre encore parce qu'il n'avait rien gagné, mais tout le monde savait qu'il s'entraînait et tout le monde s'attendait secrètement à cette victoire. Radio Ponton, là, le long des côtes bretonnes, ne cessait de chanter la louange d'un Tabarly qui n'avait remporté aucune victoire. Mais lorsqu'il a pris la course, on peut dire qu'on était tous derrière lui. Et c'est stupéfiant qu'il ait gagné. C'est extraordinaire, c'est bouleversant. Mais en même temps, on n'était pas totalement surpris ni pris au dépourvu.
Alors, il y avait quand même très peu de courses au large. À l'époque, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Son nom n'était pas connu quand même essentiellement que dans les milieux qui faisaient de la voile.
C'est vrai.
Mais surtout, c'est la première fois qu'on voyait un Français gagner dans une discipline où les Anglais régnaient en maître depuis des siècles. C'est la revanche de Trafalgar.
Il me semble qu'on avait tout de même gagné, on avait dû gagner un Fastnet, non, avec un bateau qui s'appelait Jolie Brise.
Ouais.
Me semble-t-il, mais c'est vrai qu'on avait absolument pas le sens de la course au large. Mais tout de même, au début des années 60, c'est vrai que la France découvrait la plaisance. Les Bretons étaient quand même très très bons sur la mer. Il y avait toutes sortes de constructions pas trop chères qui commençaient à circuler. Et que Tabarly a autant suscité ce mouvement qu'il l'a accompagné.
Alors il y a aussi autre chose, c'est qu'il a continué à gagner. 64, c'était une victoire sans autre derrière. Il a continué à gagner sur des bateaux qui l'a dessiné lui-même. Penduik 2, c'est lui qui l'a imaginé. Le premier Penduik, il avait 100 ans, donc ce n'était pas lui. Mais Penduik 2, Penduik 3, Penduik 4, il y en aura 5 au total qu'il a dessiné lui-même, et tous des bateaux révolutionnaires. Ce qui compte aussi pour l'histoire de la voile, c'est qu'il l'a fait vraiment avancer, il a réalisé sur ces bateaux des progrès considérables, Yann Kefelec.
Oui, alors notamment, si on prend le Penduik 2, c'est vrai que c'était la première fois qu'on construisait un si grand bateau en contreplaqué marine, et il est sûr que ça a donné le branle, comme ça, une habitude de construction en matériaux légers. À un moment où les marins, comme ça, voulaient du lourd et disaient qu'il fallait construire lourd pour se battre contre la mer et que ces bateaux n'avaient aucune chance ni de résister à du gros temps, ni d'évoluer correctement comme ça dans les conditions difficiles. Et il a prouvé avec Penduik 2, avec des panneaux de bois de 13 mètres de long et extrêmement légers, que non seulement on pouvait construire en contreplaqué marine, mais qu'on pouvait aller beaucoup plus vite que les autres.
Il y a Penduic 3, Penduic 4, le premier...
Penduic 3, extraordinaire pour son gréement, parce que vraiment, les Anglais ont eu l'impression qu'ils se fichaient littéralement de leur gueule, quoi, pour parler comme un marin. Et le Penduic 4, aujourd'hui, on y est encore, c'est les multicoques, exactement. Oui. Le Penduic 5, les ballasts, c'est absolument incroyable, ce bateau qui est toujours dans son assiette, quelle que soit la force du vent et la direction dans laquelle il souffle. Et le Penduic 6, avec son lest en uranium appauvri, qui à nouveau a fait se faire des cheveux blancs aux Anglais, à tel point qu'ils ont dû revoir leur règlement de course pour que Tabarly vraiment ne continue pas à leur mettre la pile comme il l'avait toujours fait jusque-là.
Oui, parce qu'il a gagné des courses alors en quantité. Il s'est imposé par exemple en 1967 sur Penduic 3. En 64, dans la Transat, il avait surpris les Anglais. En 67, là, il allait les humilier, vous le rappelez dans votre livre, en gagnant toutes les grandes courses au large de l'année.
Ah, ça,
la Morgan Cup, le Gotland Race, le Channel Race, le Fastnet, Plymouth-La Rochelle et puis au large de l'Australie. Au large d'Australie, le Sydney Hobart, avec un équipage d'ailleurs qui ne se prenait pas très au sérieux.
The 59-foot French schooner Penduic 3 is first into the Derwent near the end of the famed Sydney Hobart Yacht Race. Leading this year's record keeper by owner Eric Tabarly, Penduic was well placed.
Eric Tabarly, ça y est, c'est terminé, cette croisière s'est achevée, alors comment ça s'est-il passé?
Pas trop mal pour l'instant, enfin, il faut attendre les résultats maintenant.
Quelle principale difficulté avez-vous rencontré?
Oh bah...
Je peux dire que c'est votre équipage qui s'amuse là.
Il n'y a pas eu de difficulté principale. Ce qu'il y a, c'est quand le vent est comme ça, c'est assez inconfortable.
Dites-moi, le Penduic 3, c'est sur ce bâtiment que vous remportez votre cinquième victoire consécutive, je crois. À votre avis, est-ce un bon voilier?
Ah, je pense qu'il n'est pas mauvais, oui.
Vous pensez alors après à la course en solitaire?
Ben oui, il faudra s'entraîner, oui.
Et comment allez-vous la préparer?
À pied.
En revenant du large, drette sur Port Navalo, laisse venir au vent sous mes habans. Drette sur Port Navalo, fais gaffe aux jusants. Je pensais à Jeannette, je pensais à Jeannette, celle que j'aime tant. Laisse venir au vent sous mes habans, celle que j'aime tant. Fais gaffe aux jusants.
Et c'était Eric et Jacqueline Tabarly chantant a cappella. En direct, c'était assez rare. J'avais demandé qu'ils le fassent en 1995. C'était à La Baule. Et une chanson de marin. Comment était Tabarly à bord? Parce qu'on dit souvent que c'était un personnage, ou devant les journalistes, on dit souvent que c'est un personnage taciturne, qui répondait de manière très laconique, qui parlait très peu. À vous dire, Yann Kefelec, vous qui l'avez connu à bord, c'était pas le cas?
Oui, ce qui est émouvant dans cette chanson, c'est qu'il parle d'un coin qui est assez peu connu, sauf quand on est du coin bien sûr, c'est le buisson de Méhaban devant Port Navalo, qui est un haut fond très visible, mais tout de même environné de têtes de roche extrêmement dangereuses. Et il se trouve que lorsque je suis sorti avec lui dans la baie de la Trinité et devant les îles Douate et Dédic, on a un moment remonté au vent, fais gaffe au jusant, justement on était dépalé par le jusant du côté du buisson de Méhaban et on a fait particulièrement gaffe. Tabarly à bord était un homme calme, mais absolument pas un homme gênant par son silence. De toute manière, le silence à bord d'un bateau, ça n'est pas gênant, ça n'est pas embarrassant. Une espèce de traquet de moulin comme ça, de pipelette à bord, c'est plutôt pénible. Donc il était calme. Il dégageait quelque chose d'extraordinaire. J'en ai parlé comme ça à tellement de gens. Je ne suis pas fou, il n'y a pas de doute. Il y avait un rayonnement typique de Tabarly, une sorte de charme auquel on succombait lorsqu'on naviguait. Et on n'avait qu'une envie, c'était de lui faire plaisir, d'être le meilleur, de bien réussir la manœuvre. Et on voyait qu'il était très content. Effectivement, il y avait peu de paroles, mais toutes les paroles portées, c'est-à-dire quand il disait ça, on a un bateau qui avance. Ça voulait dire le maximum où on a fait du bon bateau. J'aime bien ces expressions calmes. On le voit lorsqu'il arrive de l'autre côté, là, qu'il a gagné en 64, il est d'une modestie, d'une tranquillité, d'un naturel face aux questions, assez désarmant. C'est-à-dire, il se contente de dire ben voilà, j'ai fait mon boulot de marin, ça s'est bien passé, le vent a soufflé comme il a soufflé, et moi je m'en suis sorti, il se trouve que je suis premier.
Ce qu'il n'aimait pas, ce qui fait que pour les journalistes d'ailleurs, c'était un peu l'équivalent de ce qu'est l'Everest pour un alpiniste, on avait toujours un peu peur qu'il reste muet, mais il ne répondait qu'aux questions auxquelles il voulait bien répondre. Par exemple, pas question de lui poser justement des questions sur sa vie privée.
Oui, alors avant de parler de sa vie privée, c'est-à-dire quand on entend le journaliste effectivement qui lui demande comment vous allez vous entraîner maintenant, il ne répond pas. C'est-à-dire effectivement, il y a des questions qui ne l'intéressent pas. Enfin, il y a des questions qui sont des non-questions. Ouais. Et face à une non-question, seul le silence s'impose. Et c'est vrai qu'il fallait pas se tromper de questions lorsqu'il n'aimait pas du tout parler pour ne rien dire. Quand on lui demande alors quelle force de vent, est-ce que vous avez peur de vent, combien vous avez eu comme force de vent, il répond, il y en a eu assez. Il ne va pas se lancer comme ça dans une description technique du vent parce qu'il trouve que ça n'offre aucun intérêt.
Il était interrompu dans l'interview qu'on a entendu à l'instant par l'équipage qui était derrière. Alors il y avait un équipage absolument extraordinaire, des équipiers formidables. Il y avait Kersauzon qui était un peu le bout en train du bord. Il y avait des gens qui l'a formé, Marc Pajot, Titouan Lamazou, Gérard Petitpas, Alain Poupon, Jean-Louis Etienne aussi. Tous font partie de ce qu'on appelait l'école Tabarly.
Oui, mais alors ce qu'il faut dire aussi à propos de cette fameuse course, c'est qu'il y a eu une troisième mi-temps. C'est que non seulement il avait gagné la Sydney Hobart, mais ensuite il s'est offert une espèce de repos du guerrier ou du marin du côté de l'atoll d'Ouvéa, là, et ils ont affronté, c'est là qu'ils ont, moi je pense que c'est l'exploit le plus stupéfiant de Tabarly sur mer. Alors, il ne gagne rien, sauf que au bout de 8 jours comme ça de repos, de tranquillité avec filles, apéro et oubli total de la mer, il découvre que depuis comme ça un certain nombre de jours, on annonce l'arrivée d'un ouragan, et c'est finalement avec l'ouragan sur l'horizon qu'ils appareillent en décidant non pas d'abandonner le bateau et de se replier à l'intérieur des côtes, mais de traverser l'ouragan. Donc ils enferment leurs petites amies, une femme avec son enfant, dans les cales du bateau, et ils appareillent et ils traversent l'ouragan.
Des vents de 180 km/h, je crois.
Vents de 130 nœuds. Il y a eu des pointes à 130 nœuds, mais et ça a été enregistré par les navires. C'est insensé comme exploit.
Alors un autre exploit totalement insensé, c'est le suivant. Il faut rappeler que parmi les équipiers, il y avait aussi Alain Colas qui a gagné la Transat 72 sur le Penduic 4 que Tabarly lui avait vendu, mais qui considère, une fois qu'il a eu cette victoire en 72, que Tabarly s'est un peu fini. Et Colas, qui est le grand favori de la Transat 1976 avec un bateau de 71 mètres de long, 1200 mètres carrés de voilure, alors que Tabarly s'engage dans la course avec son Penduic 6 qui fait à peine 17 mètres et qui est conçu pour un équipage de 14 personnes, alors qu'il va barrer tout seul et gagner cette course malgré des conditions météo épouvantables.
Le temps est toujours aussi mauvais sur l'Atlantique Nord, dans la zone où se trouvent actuellement la plupart des bateaux de la course. Le vent qui souffle à 110 km/h creuse la mer et les vagues atteignent parfois plus de 10 mètres de hauteur. Les 105 concurrents encore en course dans la Transat sont actuellement les jouets des éléments déchaînés aux environs du 50e parallèle.
Je me souviens être arrivé au petit matin, oui. J'avais préparé mon mouillage. Et
personne ne vous attendait ?
Ben non. Et c'est juste à ce moment-là que j'ai vu une vedette arriver vers moi très rapidement, avec des gens qui me faisaient des signes.
Alors tout de suite, nous allons retrouver Denis Poncet qui se trouve en direct à Newport. Je crois, Denis Poncet, que vous avez été le premier à rencontrer Eric Tabarly, qui attendait d'ailleurs au milieu du port qu'on veuille bien venir l'accueillir.
Le voyage est dur. Assez dur, oui. Oui, très dur. Presque failli abandonner.
Et vous savez que vous battez Colas, parce que sans doute 6 ou 8 heures d'avance.
C'est ce qu'on m'a dit, là. Oui.
Est-ce que c'est votre plus belle victoire avec Tabarly ?
Oui, à mes yeux, oui. Je suis vraiment content d'avoir fait traverser Penduic en solitaire, oui. Et en plus d'avoir gagné, oui. Sportivement, à mes yeux, ça représente quelque chose.
La plus belle victoire, Yann Kefelec, la plus difficile aussi. Il faut peut-être rappeler les circonstances, parce que jamais une Transat n'a été aussi difficile.
D'abord, il s'est battu contre la mer, mais il faut dire aussi qu'en amont, cette Transat était annoncée comme un duel. Un duel entre Colas et lui. Tabarly n'était pas du tout sûr de s'inscrire à la Transat de 76 et il s'est senti à un moment convoqué littéralement sur l'eau par Colas qui ne cessait de répéter que Tabarly était fichu, que voilà, que c'était un vieux monsieur, que c'était lui le plus grand marin du monde et que même si Tabarly osait comme ça s'affronter à lui, il le battrait haut la main. Donc Tabarly s'est inscrit avec une sorte de, quand même avec un bateau qui en avait déjà vu de toutes les couleurs et qui n'était pas grand chose en comparaison de ce monstre de 72 mètres. Colas s'était arrêté à 72 mètres parce que c'était un chiffre mythique, celui de sa victoire en 72 sur le Pendwick 4. Mais en fait, lui, on lui aurait proposé un bateau de 90 mètres, il n'aurait pas hésité. Ce qui est bouleversant, c'est que Colas s'était quand même broyé le pied quelques mois plus tôt au cours d'un mouillage en catastrophe dans le port de la Trinité et que ce marin extrêmement diminué, une sorte de crapaud boiteux, continuait de vouloir absolument se battre avec Tabarly lors de cette traversée de l'Atlantique. Donc, en effet, l'histoire, le destin a donné raison à Eric Tabarly, c'est encore une fois. Colas a dû faire escale avec son monstre, avec son géant à Terre-Neuve. Il est reparti, il est arrivé second. On a découvert à ce moment-là, il était fou furieux d'être arrivé second. Il s'est senti dépossédé d'un trophée qui pour lui aurait dû lui revenir. On a découvert qu'il s'était fait aider au départ de Saint-Jean-Terre-Neuve, donc qu'il allait être lourdement pénalisé. Ensuite, on s'est aperçu qu'il avait mis au moteur, qu'il n'avait plus de scellé sur son moteur, qu'il avait fini la course le plus vite possible, à toute vapeur, pour essayer de battre Tabarly. Donc, il avait triché. À ce moment-là, il a été disqualifié.
L'exploit aussi, c'est Tabarly, indépendamment de la présence de Colas dans la course, c'est Tabarly. Car peu de temps après le départ, voilà que son pilote automatique casse. Il faut rappeler que c'est une course en solitaire. Ça veut dire qu'il devra pratiquement se passer de sommeil pendant toute la durée de la traversée, dans des conditions effroyables. On l'a entendu, des vents absolument considérables. Et il décide de continuer. Ça, c'est absolument incroyable. C'est pour ça, peut-être, disait-il, que c'était pour lui sa plus belle course.
Il décide de continuer. La nuit porte conseil. Après une bonne nuit de repos, pendant quelques temps, il se déroute. Il se dit, bon, voilà, c'est pas possible, je ne peux pas la faire, je suis réduit à l'abandon. Et réparé par un bon sommeil, il repart en donnant des noms d'oiseaux pour avoir songé une seconde qu'il aurait pu renoncer. Effectivement, ce qui est inouï aussi, indépendamment de la bataille avec Colas, c'est qu'ils ont traversé, je ne sais plus, 6 dépressions ou 5 dépressions. Et des dépressions extrêmement violente. Donc la course était une hécatombe. Les bateaux ne cessaient de se casser, les marins de renoncer. Il a vraiment gagné dans les pires conditions et en disparaissant comme chaque fois.
Il est allé aussi loin qu'il pouvait aller sur mer, dites-vous dans votre livre, Yann Kefelec. Il n'a plus rien à prouver. L'œuvre est accomplie, l'homme est accompli. Qu'il découvre l'amour sur ses entrefaites n'a rien d'anodin. Effectivement, c'est la rencontre avec Jacqueline qu'il allait épouser, puis allait avoir un enfant, Marie. Alors cela dit, il continue malgré tout d'inventer de nouveaux bateaux, dont un bateau à hydrofoil, le Paul Ricard, et de battre un record de la traversée de l'Atlantique, vieux de 75 ans, c'était en 1980, et puis il restait toujours aussi populaire.
Si l'on en croit le dernier numéro de Paris Match, Eric Tabarly est le Français le plus populaire de l'année 1980. Ce résultat d'un sondage est surprenant, qui eût cru que la cote de popularité de Tabarly était supérieure à celle d'Alain Delon ou à celle des vedettes de la chansonnette que l'on voit sans arrêt sur les petits écrans. Oui, qu'il l'eût cru.
Olivier de Kersauzon.
Pour moi, ouais, c'est un personnage d'abord d'une grande dimension maritime. Je pense que les gens comme Eric en bateau, il y en a un tous les siècles, et encore.
Comment vous expliquez justement sa popularité? Parce qu'il n'est pas le seul, il a peut-être été le premier, mais il n'est pas le seul.
La popularité de De Gaulle, c'est pareil, c'est parce qu'il était moins con que les autres. Tabarly est moins con que les autres. Il a du génie. Eric a du génie en bateau, les autres ont souvent que du talent. C'est un marin étonnant. C'est un marin étonnant, Eric. C'est un homme de mer, quoi.
L'homme qui avait reçu toute la mer en partage, il nous aura fait rêver. Oh oui. À chacun de ses voyages, le vent souffle sur la mer, un air que je veux chanter.
Pierre Bachelet, Le Voilier Noir, une chanson que vous avez écrite après la mort d'Éric Tabarly, Yann Kefelec. Comment expliquer justement que 10 ans après sa mort, il reste encore au fond le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de voile?
Mais parce qu'il
fait rêver, comme dans votre chanson.
Parce qu'il est mort et parce qu'il n'est pas mort en même temps, parce que personne n'a fait son deuil, parce qu'on ne s'est pas habitué à sa disparition, parce que je vous parlais tout à l'heure du rayonnement exceptionnel d'Éric Tabarly, on peut dire qu'il continue à rayonner après sa disparition, et j'ai l'impression qu'il va continuer à rayonner longtemps. Comme le disait tout à l'heure Olivier de Kersauzon, il était, les autres ont du talent, lui il avait du génie, il avait un génie tout à fait à part. Et j'aime bien la phrase de Montaigne, je sens que cela ne saurait s'expliquer qu'en disant « parce que c'était lui ». Eh bien, c'est parce que c'était lui. On voit quand même qu'il y a d'immenses marins aujourd'hui français triomphés sur mer, comme Francis Joyon. Il a exactement la même simplicité. Quand il a gagné une course, il se contente de répondre « la mer m'a laissé passer ». Et on voit bien dans cette réponse extrêmement tranquille, douce et simple, l'influence de Tabarly, qui n'avait jamais un mot de trop ni un mot emphatique pour parler de ses victoires.
Et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on navigue sur des bateaux, non pas conçus par Tabarly, mais avec des innovations qu'il a découvertes. Il était beaucoup plus qu'un grand manivrier, qu'un grand marin. C'était aussi un architecte naval. Il était fasciné par les bateaux, même si celui sur lequel il est mort et qu'il préférait, c'était un bateau de 100 ans.
Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a commencé en effet par l'aéronaval. Et là, en découvrant l'avion, il s'est familiarisé quand même avec une idée de vitesse qu'il a essayé d'appliquer ensuite à la mer et à la voile. Et c'est vrai que son rêve, c'était donc l'hydroptère, un bateau qui n'est plus un bateau volant, quoi, une sorte de... Un bateau qui n'est plus retenu à l'élément que par des ailerons, un bateau qui a décollé exactement comme un avion. Et l'histoire lui donne raison, encore une fois.
Et c'était aussi un personnage attachant, c'est pour ça aussi qu'on l'aimait. Bon,
quand on l'entend, on voit bien, on a envie de lui dire « Mais écoute, Éric, qu'est-ce que t'as foutu ? Enfin, reviens, quoi. » C'est un truc qui ne colle pas du tout dans sa disparition.
Qu'est-ce qu'il a foutu, justement, comme vous dites, Yann Kefelec ?
Ce qui est étrange, c'est qu'il a créé deux formules mémorables, c'est excellente, c'est-à-dire une main pour le marin, une main pour le bateau. Ben là, il n'a eu ni la main pour le marin, ni la main pour le bateau, il est tombé. Et autre formule... Un marin qui tombe à la mer n'a pas sa place sur le bateau. Donc c'est très lourd d'avoir dit ça et en même temps d'avoir manqué, d'avoir défailli à ces deux excellents conseils. En effet, il avait momifié ce bateau dans des bandelettes de polyester, là, son Penduick. Il l'avait éternisé. Et c'est étrange de voir que ce bateau va lui survivre encore extrêmement longtemps.
Ce bateau qui avait 100 ans exactement quand il est mort, 100 ans et quelques mois après.
Ce bateau dont il était amoureux, dont il avait décidé que ce bateau ne mourrait jamais. Effectivement, il est arrivé à ses fins.
Merci Yann Kefelec. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre. Il est vraiment très émouvant. Tabarly, qui vient de paraître conjointement chez Fayard et aux éditions de l'Archipel. À lire aussi Éric Tabarly, mon père, de Marie Tabarly, un très beau livre illustré de nombreuses photos. Récemment publié chez Michel Lafon. Vous avez pu entendre des extraits d'un excellent documentaire qui est en ce moment, qui vient de sortir sur les écrans, un documentaire de Pierre Marcel, intitulé tout simplement Tabarly, avec des films tout à fait extraordinaires et inédits, ainsi que des extraits de l'Histoire en direct, diffusée sur France Culture en juillet 1995. Avoir aussi deux expositions sur Éric Tabarly, une qui se tient à Paris, au Musée National de la Marine, au Palais de Chaillot, jusqu'au 8 septembre 2008, et l'autre jusqu'en décembre 2009, à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Benoît Messire, Olivier Daligaud, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier et Claire Destacan, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les Templiers.